Bon, ce soir, on commence un nouveau texte. Hein, si on avait terminé le... Oui ? Non ? Mais on avait terminé le Ajahn-Chah, parce qu'après, c'était des... Il reprenait les mêmes éléments qu'il développait autrement, mais... Vous connaissez ça ? Les souhaits du Mahamudra, on verra. Ça, c'est mon livre de chevet. Voilà. Prenez quelques instants pour placer votre corps, redresser la colonne vertébrale. Au niveau de l'esprit, si vous méditez depuis peu de temps ou si votre esprit a tendance à être assoupi ou agité, alors appliquez les quatre points de Chiné pour que le calme s'installe. Sinon, essayez de demeurer d'emblée dans cette qualité de conscience, de connaissance, et qui reconnaît tout ce qui s'élève dans l'esprit, aussi bien les phénomènes extérieurs, les phénomènes intérieurs. Et dans cette détente de l'esprit, vous faites apparaître un lotus, une fleur de lotus totalement épanouie, que vous placez en face de vous dans l'espace. Et sur cette fleur de lotus, vous visualisez le Bouddha Shakyamuni, tel qu'il est représenté habituellement, avec la main droite qui prend la terre à témoin, et qui est assis sur ce lotus, totalement immatériel, irradiant de lumière. Et pour ceux qui ont un lama racine, vous pensez qu'il est indifférencié de votre lama racine. Et quand votre esprit est concentré sur cette image, sur cette visualisation, alors laissez-le exprimer la confiance, votre gratitude par rapport au Bouddha, par rapport à votre lama racine. On est toujours dans la non-distraction. On reste conscient des phénomènes extérieurs. On reste conscient des phénomènes intérieurs, de toutes les pensées, de toutes les formations mentales qui peuvent traverser l'esprit. Et on ne se laisse pas distraire par cela. On reste conscient de la présence de cette image du Bouddha Shakyamuni en face de nous. Aucune contrainte, c'est juste une attention à ce qui est, une conscience non forcée. Et face au Bouddha Shakyamuni, on va prendre l'engagement de tout faire pour aider les êtres au maximum de ce que nous pouvons faire. non seulement aider les êtres dans une dimension relative, mais aider les êtres aussi dans une dimension ultime. C'est-à-dire vraiment prendre l'engagement de tout faire pour les libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Et notamment de la cause primordiale qu'on appelle l'ignorance. Donc dans ce moment, donnez de la puissance à votre esprit, une puissance de la bodhicitta. Et pour pouvoir libérer les êtres de l'ignorance, nous devons nous-mêmes nous libérer de l'ignorance. Cette libération de l'ignorance est ce qu'on appelle le Mahamudra. Donc pour cela, nous devons absolument purifier les voiles qui font obstacle à cette réalisation du Mahamudra. Donc pour cette libération, cette purification des voiles, nous visualisons que au front du Bouddha Shakyamuni en face de nous, au chakra du front, une lumière blanche irradie et vient toucher notre front. Cette lumière blanche entre en nous, par le chakra du front, emplit tout notre corps. Nous pensons alors que cette lumière blanche en nous purifie dans notre esprit tous les voiles, toutes les empreintes karmiques, toutes les tendances négatives que nous avons accumulées depuis des temps sans commencement jusqu'à ce soir, et que nous avons donc accumulées par l'activité physique, par l'activité du corps. Et vous pensez que tous les actes négatifs accomplis jusqu'à ce soir sont totalement purifiés et qu'il n'en reste plus aucune trace. Sentez-vous totalement libéré de tous les actes négatifs que vous avez pu accomplir dans le passé jusqu'à présent. À présent, depuis le chakra de la gorge du Bouddha en face de nous, c'est une lumière rouge qui irradie et qui, tel un faisceau lumineux, vient toucher notre chakra de la gorge. Cette lumière rouge entre en nous. Et de la même façon, elle purifie. Et cette fois-ci, elle purifie dans notre esprit tous les voiles, les tendances et les karmas négatifs dus à toutes les paroles négatives que nous avons prononcées jusqu'à ce soir. Que toutes ces paroles négatives sont totalement purifiées, qu'il n'en reste aucune trace. Puis du chakra du cœur du Bouddha Shakyamuni, c'est à présent une lumière bleue qui irradie et qui vient toucher notre cœur. Cette lumière bleue emplit notre corps. Et elle purifie toutes les empreintes et tendances karmiques négatives dû aux pensées négatives. Elle a encore développé cette certitude que toutes ces pensées négatives sont purifiées et qu'il n'en reste aucune trace karmique. Maintenez un état de non-distraction. Et à présent que les voiles, les tendances karmiques accomplies par le corps, la parole et la pensée sont totalement purifiées. Alors nous pouvons unir notre esprit à celui de notre lama racine, à celui du Bouddha Shakyamuni. Donc pour cela, le Bouddha Shakyamuni en face de nous se transforme en une sphère de lumière. Cette sphère de lumière vient se placer au-dessus de notre tête. Et lentement, progressivement, elle entre en nous par le chakra du sommet de la tête et emplit tout notre corps. Notre esprit fait absolument un avec l'esprit du Bouddha. Et nous laissons demeurer notre esprit dans cet aspect connaissance, luminosité, clarté, conscience claire, vive, totalement détendue, spacieuse. Il y a conscience de toutes les sensations qui s'élèvent, qui traversent l'esprit et qui disparaissent, de toutes les perceptions, de tous les facteurs mentaux. Mais on ne s'accroche à rien, on ne retient rien, on ne rejette rien. Je suis conscient de ce que vit mon corps et je ne rejette rien, mais je ne m'agrippe à rien non plus. S'il y a des pensées qui s'élèvent, je ne les analyse pas, je suis conscient de leur présence, mais je ne cherche pas à les retenir, à les analyser, non plus à les rejeter. Je constate simplement qu'elles sont là et qu'elles traversent l'esprit, et qu'elles n'ont pas le pouvoir de s'arrêter. trouvez dans, quand vous méditez, quand vous faites la pratique du Mahamudra, vous pouvez faire cette pratique qui est un guru yoga très court, très simple à faire. Plusieurs choses importantes dans cette pratique qu'il est nécessaire de développer quand on fait ce type de visualisation. D'abord la bodhicitta. Il faut absolument prendre la décision d'être un bodhisattva et d'aider les êtres à se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Souvenez-vous dont on a parlé le mois dernier, Rinpoche à Berlin, pour la première fois, je l'ai entendu dire qu'il fallait qu'on soit un peu plus souvent un yidam courroucé. C'est la première fois que j'entendais Rinpoche dire ça. C'est pas dans son style en général. Hein. C'était plutôt soft, n'en faites pas trop, brossez-vous l'ego dans le sens du poil, etc. Et là, il a dit, soyez plus souvent un yidam courroucé, non pas courroucé envers les autres, mais courroucé envers soi-même, c'est-à-dire qu'il faut absolument prendre l'engagement de mettre un terme au fonctionnement égotique de notre esprit, qui saisit absolument tout, qui rejette tout, qui est avide pour d'autres choses, etc. Tout ça, ce sont des manifestations de la saisie. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui prend l'engagement d'aider les êtres. Si votre enfant était dans une situation catastrophique, qu'est-ce que vous feriez pour aider votre enfant? De temps en temps, prenez cet exemple-là. Je suis certain, persuadé que vous avez déjà vécu ça, vous qui avez une famille. Moi, ça, je ne parle pas par expérience. Mais certainement qu'une fois, vous vous êtes dit, il faut que mon gosse ne souffre plus. Et à la limite, puisse-je moi souffrir, mais que mon enfant soit libéré de cette souffrance. Et ça, c'est quelque chose de très fort que vous avez pu vivre un jour face à une situation, par l'amour que vous pouvez avoir pour cet être-là. Mais cet élan du cœur, on va dire, eh bien c'est justement un élan du cœur, ce n'est pas un élan de la tête. Ce n'est pas quelque chose qui passe par le raisonnement et par le mental. Ça passe de façon plus triviale par les tripes. Et quand les tripes parlent, c'est puissant. Il y a donc un potentiel de puissance, d'amour, de compassion, donc de bodhicitta, absolument énorme dans l'esprit de tous les êtres. Et il est là, ce potentiel. Il est là. Il ne demande qu'à se développer. Hein? Mais qu'est-ce qui fait obstacle à son développement, à l'expression de cette intensité, de cette puissance? C'est la saisie, c'est l'ignorance. C'est le manque de bodhicitta ultime. Et le manque de bodhicitta ultime fait obstacle, en fait, au développement de la bodhicitta relative. Hein? Les deux fonctionnent parallèlement, en même temps. Donc c'est la saisie. Donc cet engagement du bodhisattva, c'est un engagement en fait sur les deux aspects de la bodhicitta. Sur la bodhicitta relative, aider les êtres à ne plus souffrir, à moins souffrir, à faire en sorte que nous-mêmes nous soyons moins, voire plus cause de souffrance pour les êtres. Donc qu'est-ce que je dois de façon concrète modifier dans ma façon de vivre, dans mon comportement, de façon à ce que les êtres qui vivent avec moi ou qui sont en contact avec moi fréquemment, voire quotidiennement, eh bien, je ne sois plus cause de souffrance pour ces êtres-là. Et ça commence là, le bodhisattva. C'est facile de construire une école en Inde. C'est beaucoup plus difficile de travailler sur notre esprit de façon à ce que mon conjoint, mes enfants, etc., les êtres avec qui je vis, eh bien, je ne sois plus cause de souffrance pour eux. Parce que ça, c'est dans le quotidien. Hein. Et en même temps, il faut faire cette relation entre ce souhait, cette façon de transformer notre esprit, pour que cette bodhicitta relative se développe, et la saisie égotique, c'est-à-dire développer la bodhicitta ultime et faire en sorte que la saisie égotique diminue. Donc le souhait du bodhisattva, c'est vraiment sur ces deux aspects de la bodhicitta. Et dans la méditation qu'on a faite, eh bien, on exprime tout cela face au Bouddha, face à notre lama racine qui nous inspire, bon, etc. On purifie les voiles par cette visualisation des trois couleurs pour se rappeler que nous devons de toute façon purifier les voiles parce que ces voiles sont créées par la cise égotique et c'est ce qui empêche le développement de la bodhicitta. Hein. Mais quand nous faisons la résorption du Bouddha en face de nous et que l'on reste comme ça dans la nature, on dit, dans la nature de l'esprit, là c'est la bodhicitta ultime. Et la bodhicitta ultime, la méditation sur la bodhicitta ultime, hein, ça ne consiste pas à rester comme ça, comme une espèce de abruti opaque. Attention, il faut qu'il y ait une grande clarté dans l'esprit. Donc, l'aspect connaissance doit toujours être présent en état méditatif. Et tout s'élève dans l'esprit. Tout peut s'élever dans l'esprit. Nous continuerons d'avoir des pensées relatives à ce que nous avons vécu, grâce à nos souvenirs, à notre mémoire, qu'on le veuille ou non, ça continuera de s'élever. Et il y aura continuellement des pensées relatives à ce qu'on en fera plus tard, à ce qui va se passer, etc. Donc on n'arrête rien de ce fonctionnement-là. On est conscient de ce fonctionnement, mais on n'arrête rien, on ne retient rien, on ne rejette rien, on est conscient de tout, mais on constate que ce n'est que du mouvement et ça traverse, ça traverse, ça traverse, ça traverse. Et rien ne peut s'arrêter dans l'esprit, absolument rien. Alors, il y a dans ce texte en introduction les instructions de Tilopa pour demeurer dans la nature de l'esprit, hein, dans cette méditation. C'est pas nouveau, hein, pour les anciens, ce qu'on appelle les six dharmas de Tilopa, qu'il a donné à Naropa notamment au bord du Gange. Et ces six dharmas, ces six instructions sont... Alors ça, vous pouvez prendre des notes, hein, quand même. Même si vous savez que je suis stylo note, mais... Voilà. Ça. Ah oui, ça réagit, c'est bien. Il n'y a que le changement qui est permanent. Alors, ces six instructions de Tilopa sont... Ne réfléchis pas. Ne conçois pas. Ne pense pas. Notez. Vous tordrez la bouche après. Notez. Ne médite pas. N'analyse pas. Alors, ces cinq premières instructions sont ce qu'il ne faut pas faire pendant la méditation. Donc, on reprend. Ne réfléchis pas. Ne conçois pas, ne pense pas, ne médite pas, n'analyse pas. Et la sixième, ça concerne ce qu'il faut faire pendant la méditation, demeure en toi-même. Alors, quand Tilopa dit « ne réfléchis pas », ça fait référence à toutes les pensées du passé. Donc, dans la méditation, il y aura des pensées relatives au passé qui vont s'élever. S'il n'y en a pas, allez voir un psy. Mais s'il y en a, c'est normal. Et on ne peut pas les arrêter. D'accord? Par rapport à ces pensées relatives au passé, Rinpoche Rinpoché, on en parlait le mois dernier, à Berlin encore, il a insisté, le passé, c'est vraiment le passé, quoi. Il faut le voir comme ici, mais vous, vous êtes là. Et c'est fini, c'est passé, c'est... On ne peut plus rien en faire, on ne peut plus avoir de contact avec cela. On a des souvenirs. Ouais. Et ça, bon, ces souvenirs, ce sont des pensées qui s'élèvent, hein. Mais en méditation, eh bien, on est conscient de ces pensées-là, mais on ne se reporte pas sur ces pensées. On ne les accroche pas, on ne les rejette pas non plus, mais vraiment, on les laisse passer. Ensuite, ne conçoit pas, eh bien, c'est les pensées relatives au futur. Les pensées relatives au futur. Donc, toutes les pensées de ce que l'on va faire demain, dans 8 jours, ce qui va se passer, etc. Pendant la méditation, c'est là, mais ça ne doit absolument pas interférer, perturber notre esprit. C'est-à-dire que on les regarde, mais c'est pareil, c'est du mouvement de l'esprit. Ensuite, ne pense pas, eh bien, c'est les pensées relatives au présent, ce qui se passe là maintenant. Donc c'est pareil. Donc on ne suit aucune pensée, ni du passé, ni du futur, ni du présent. Ces instructions sont très simples, hein, mais ce sont des clés. Si l'on médite et que l'on pense à ce que l'on va faire ou ce que l'on a fait hier, etc., on n'est pas dans la nature de l'esprit, dans la pratique de la nature de l'esprit. Ensuite, ne médite pas. Alors, Bokhari Rinpoché explique que cela signifie qu'on ne. On ne. Comment on ne verse pas dans une méditation où l'intellect essaie d'appliquer les concepts de vacuité, de clarté, de l'esprit. Donc toutes ces notions-là, on peut s'en inspirer quand on étudie ce qu'est la méditation. Voilà. Mais dans la méditation, on n'essaie pas d'installer, par exemple, un état de vacuité ou un état de clarté tel qu'on l'a compris, tel qu'on l'a lu, etc. Ensuite, il y a n'analyse pas. Alors, n'analyse pas, c'est ne pas, pendant la méditation, ne pas tomber dans l'approche analytique de l'actong, de la vision pénétrante. C'est-à-dire que pendant la méditation, on ne se dit pas, mais l'esprit, comment est mon esprit? Mon esprit est sans forme, mon esprit est sans substance, il n'a pas de couleur, tiens, est-ce qu'il a vraiment une couleur? Non, je ne vois pas de couleur, etc. Ça, on laisse absolument tomber cette analyse. Voilà. Et la dernière, demeure en toi-même. Alors, demeurer en toi-même, eh bien, c'est demeurer dans cet aspect conscience de l'esprit, l'aspect connaissance. Souvenez-vous d'Ajahn Chah, il parlait souvent de ce qui sait, ce qui connaît. Donc, cet aspect connaissance de l'esprit, qui est conscient de tout ce mouvement, hein, mais en dehors de cela, il reste dans cet aspect connaissance de l'esprit. Il n'analyse pas, il ne se porte pas sur des pensées qui traversent, que ce soit des pensées relatives au passé ou au futur. Il n'est pas non plus dans la recherche d'installer un état méditatif quelconque. Il est complètement détendu, ouvert, mais clair, lucide, conscient. Il sait absolument tout ce qui se passe. Il y a la conscience de tout ce qui se passe. Et on reste. On demeure dans cette qualité de conscience claire, vive. Et il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. pas besoin de... Oui, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Comment dire? Pas besoin de développer. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça paraît très simple. Mais c'est tellement simple. Alors ça, c'est une autre instruction. C'est tellement simple qu'on n'y croit pas. Parce que l'intellect intervient tout de suite. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. C'est compliqué de réaliser l'éveil. C'est difficile. Ça prend du temps. C'est long. Il faut en baver. Donc si c'est aussi simple que ça, ça ne doit pas être ça. Et alors ça, c'est le plus gros voile, le plus gros doute hein, que l'on puisse avoir dans l'esprit. Quoi. Essayez simplement d'être comme ça. Et voyez ce que vit à ce moment-là votre esprit. Voilà. N'analysez pas, ne cherchez pas à voir, faites l'expérience, expérimentez directement. Installez-vous, rappelez-vous ces 6 points et voyez ce qui se passe dans l'esprit. Et si vous voulez être sûr, faites naître à ce moment-là une pensée qui vous perturbe, qui peut vous perturber. Une pensée sur le futur, une pensée sur le passé, une situation qui vous a perturbé ou une situation que vous craignez. Faites naître cette pensée-là et regardez-la simplement en demeurant dans cet aspect connaissance, conscience de la présence de cette pensée. Rien de plus. Et voyez ce que vous vivez intérieurement. Alors, ce texte du troisième Karmapa, c'est les souhaits du Mahamudra. Hein. C'est le troisième Karmapa qui a créé ce texte, qui a conçu ce texte, qui est un texte de réalisation et d'instruction donné à partir de sa réalisation du Mahamudra, de la nature de l'esprit. Troisième Karmapa a vécu en 1284 et il est mort en 1339. Donc il a dû l'écrire voilà, au début du XIVe siècle. Donc ce texte est ancien, hein, mais c'est quand même encore un texte de référence pour notre lignée sur les instructions relatives au Mahamudra. Alors, on va passer les premières strophes, parce que la première strophe, c'est un hommage à son Lama Racine, au Bouddha Shakyamuni, puisque tous les maîtres qui écrivent des instructions font toujours d'abord, commencent toujours par un hommage à la lignée, ou un hommage au Lama Racine, ou au Bouddha Shakyamuni, hein, pour bien montrer qu'ils n'ont rien inventé, que ce qu'ils donnent comme instruction, c'est en fait le fruit de leur réalisation, mais cette réalisation, elle vient parce qu'il y a eu le Bouddha Shakyamuni ou leur maître qui leur ont donné les instructions pour parfaire ou accomplir cette réalisation. Donc il y a toujours un hommage au maître précédent. Ensuite, dans la deuxième strophe, alors pour la prochaine fois, on essaiera de photocopier le texte et de distribuer ce texte à tout le monde. La deuxième strophe, c'est une strophe de dédicace tout de suite, par anticipation. Hein, le troisième Karmapa dédie ce texte-là à tous les êtres, issus des montagnes neigeuses de mes pensées et actes purs, ainsi que de ceux de l'infinité des êtres, coule la rivière des vertus rassemblées que ne pollue point la triplicité. Puisse-t-elle s'épancher dans l'océan des quatre corps d'un vainqueur. Alors que veut dire le Karmapa quand il dit « Coule la rivière des vertus rassemblées que ne pollue point la triplicité. » Qui a une idée?
Les voiles perturbateurs.
Triplicité, à quoi ça peut...
Non,
c'est en relation avec les vertus, la rivière des vertus, que ne pollue point la triplicité. Quelle est la sorte de triplicité qui peut polluer nos axes vertueux?
La croyance en un acteur de l'acte.
C'est un attachement à l'action.
allez, donner une réponse juste. Vous avez droit à une réponse et vous avez une Twingo à la tâche.
Une Twingo, non. Mais sans triplicité.
Vraiment. Mais si on se met à trois, ça marche pas.
Là, c'est l'attachement d'abord à moi, après à ce que j'ai donné, et après à la personne à qui j'ai donné.
Bon, alors comment vous appelez ça?
La triplicité.
Oui, la triplicité. Mais en d'autres termes, être libre des trois formes de saisie. Pardon ?
C'est de l'écho, tout ça.
Non, mais je veux des termes précis. Ça fait 30 ans que vous pratiquez le dharma, soyez précis. C'est être libre des trois formes de saisie dans les vertus. Pour qu'une vertu soit appelée vertu transcendante, c'est ce qu'on appelle en sanskrit une paramita. Il faut que cette vertu, pour être transcendante, elle soit associée à la sagesse, à la sixième des paramitas. Si vous prenez par exemple la générosité, il faut que cette générosité, dans sa pratique, soit associée à la sagesse. La sagesse, ça va être libre de ces trois formes de saisie, ou être libre de cette triplicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saisie par rapport à l'auteur ou le sujet qui accomplit cet acte. Donc j'accomplis ce don de générosité, par exemple pour accumuler du karma négatif. Pour accumuler du karma positif. Et là il y a une grosse saisie sur le fait de pratiquer cet acte de la générosité. Voilà. Et souvent, eh bien, est-ce que nous sommes libres dans un tel acte, hein, de cette forme de saisie? Bien. Ensuite, il faut être libre de la saisie que l'on peut développer par rapport à celui qui va bénéficier de notre acte de générosité. Donc l'objet à qui est destiné l'action. Et ça aussi, observez votre esprit quand vous pratiquez un acte de générosité. Est-ce que vous êtes vraiment libre de cette forme de saisie par rapport à qui vous pratiquez la générosité,
hein? Ça ne veut pas dire je te donne rien parce que tu n'existes pas, hein.
Non. Hein? Mais même si vous donnez une pièce à un individu dans la rue, pourquoi vous lui donnez cette pièce? Est-ce que vous lui donnez cette pièce parce que c'est une femme qui a un gamin dans les bras et ça vous touche, par exemple? Est-ce que vous donneriez de la même façon cette pièce à un monsieur sale, etc., dans la rue, qui en a peut-être autant besoin? Quelquefois, on n'est pas libre, hein, de cette forme de saisie. Et ça, c'est pas inintéressant de regarder ce qui se passe dans notre esprit quand on agit, même un acte, en tant qu'acte vertueux. Parce que cet acte vertueux, il doit être transcendant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, eh bien, cette non-saisie dans l'acte, dans la façon de donner, dans le sujet et à qui on donne, etc. Parce que sinon, c'est simplement un acte vertueux, donc il y a une accumulation de karma positif, mais ce n'est pas suffisant pour que cet acte, eh bien, nous conduise à l'éveil, nous permette d'aller jusqu'à l'éveil. Et donc la troisième forme de saisie, c'est par rapport à l'objet lui-même, la saisie que l'on développe par rapport à l'objet lui-même. Et ça, quelquefois, nous ne sommes pas libres non plus, eh bien, d'une forme de saisie par rapport à l'objet. Et ça, je vous ai tous raconté l'histoire de l'ancien Kalu Rinpoche, qui un jour, en plein enseignement, au début de l'enseignement, devant 150 personnes, il y a une personne, une femme, qui vient lui faire offrande un objet. Voilà. Et il la remercie, elle va s'asseoir. Et sans doute que Kalu Rinpoche, à ce moment-là, a senti qu'il pouvait faire un enseignement direct à cette personne. Alors, au milieu de l'enseignement, il a appelé une autre personne de l'assemblée qui est venue vers lui. Et l'objet qui lui a été donné, il l'a offert à cette personne. Et là, on a pu voir que la personne qui avait offert cet objet à Kalu Rinpoche n'était pas libre du tout, hein, de ces formes de saisie. Alors bien sûr que si Rinpoche a pu agir de cette façon-là, c'est parce qu'il a senti qu'elle était à même de recevoir ce type d'enseignement. Sinon, ça aurait été humilier la personne. Mais elle a compris, effectivement. Elle a compris. Elle a vu qu'elle avait une grosse saisie là-dessus. Parce qu'après, elle est allée discuter avec Rinpoche. Et voilà. Mais ça veut dire que c'est très subtil. Ça peut prendre une grande subtilité, cette forme de saisie, dans notre façon de pratiquer la paramita, les paramitas. Vous avez un autre exemple, c'est Naropa, par exemple, qui avait développé une grosse saisie par rapport à l'éthique de moine qu'il vivait. Là, il menait une vie de moine extrêmement pure, mais tellement pure, eh bien, qu'il développait une saisie par rapport à cette façon de vivre. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, alors bien sûr que Tilopa lui a fait travailler cette saisie parce qu'il l'a obligé à prendre une compagne. Et Naropa a dit, mais pas question, moi je suis moine.
Et après il lui a piqué.
Et alors, Tilopa lui dit, mais je suis ton lama racine, je te demande de prendre une compagne. Donc Naropa a beaucoup hésité, mais son lama racine lui ayant demandé de prendre une compagne, il en a pris une. Seulement, il a dû développer de l'attachement pour sa compagne parce que Tilopa lui l'a piqué. Alors, tout ça, il y a plein d'histoires comme ça dans la relation de maître à disciple. Cela veut dire que si nous ne sommes pas libres de cette triplicité, la saisie devient un obstacle, en fait, à la réalisation de la libération. Parce que il y a encore une forme de saisie qui peut se développer, et combien de personnes, par exemple, développent de façon dogmatique certaines théories en lesquelles elles croient absolument, mais elles y croient avec une telle saisie que ça les emprisonne, si vous voulez, et que ça leur empêche de se libérer. Donc voilà, il faut s'entraîner dans notre pratique des paramitas à être libre de cette triplicité. Ce n'est pas facile, hein. Mais après, chacun peut voir ce qui se passe dans son esprit. Alors la strophe après. Jusqu'à leur obtention, de naissance en naissance, au cours de toutes mes existences, sans même entendre les mots actes négatifs ou souffrances, puissais-je vivre la plénitude d'un océan de bonheur et d'actes positifs. Obtenant les libertés et les qualifications les meilleures, ayant confiance, diligence et intelligence, suivant un bon maître et recevant la sève des instructions, sans rencontrer d'obstacles à leur pratique correcte, puissais-je, lors de toutes mes vies, mettre à profit le dharma sacré. Donc là, il y a la notion d'un support nécessaire pour pratiquer le dharma. On ne va pas le développer, on a suffisamment parlé le mois dernier. Hein, précieuse existence humaine. Voilà. Mais ce que le Karmapa développe, en plus de cette précieuse existence humaine, que nous devons absolument avoir, et rappelez-vous, pour qu'elle soit précieuse, il faut qu'il y ait la réunion de l'ensemble de ces conditions. S'il manque une, deux ou trois de ces conditions, eh bien, c'est déjà plus difficile de pratiquer le dharma, voire impossible. Ça, il faut vraiment en être conscient. En sachant que ces conditions, elles sont complètement impermanentes. Elles se modifient d'instant en instant, et que demain, nous ne sommes pas certains d'avoir... de pouvoir encore réunir toutes ces conditions pour pratiquer le dharma. En d'autres termes, si on les a là maintenant, eh bien, maintenant, dans cet instant présent, là, maintenant, il faut le pratiquer. On ne peut pas se dire, je verrai demain. Si on se dit ça, on n'a pas compris l'impermanence, on n'a pas compris la fragilité de ces conditions. On n'a pas compris que ces conditions, elles sont complètement fluctuantes, ça va, ça vient, ça va, ça vient, voilà. Comme on les a depuis un certain temps, on pense qu'elles sont stables. Mais non, elles sont totalement instables. Seulement, il y a des conditions semblables qui se mettent à nouveau en place, alors ça donne l'impression qu'il y a une continuité, une stabilité dans ces conditions. Mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, toutes les personnes qui ont fréquenté le Tchöling depuis que le Tchöling existe, toutes celles qui sont disparues, ne sont pas forcément mortes, mais n'ont plus les conditions pour être là ce soir, par exemple. Et c'est juste à constater. Même celles qui le voudraient, peut-être qu'elles ne peuvent plus, elles sont âgées, elles sont fatiguées, elles sont malades, elles sont voilà, ou elles ont déménagé, ou, etc. Ou il y a tel problème dans la famille. Ou, voilà. Donc en fait, si on les a, on peut se dire, ben, on ne peut pas dire qu'on a de la chance, on peut se dire qu'on a un bon karma, parce que toutes les conditions eh ben, sont encore présentes. Bien. Alors, en plus de cela, hein, il faut la confiance. Alors ça, c'est un autre élément important. Ça, vous pouvez prendre note, il faut la confiance. Et il faut la confiance de la certitude. Pas seulement la confiance dans les enseignements, la confiance dans tel maître que l'on rencontre. Hein. On a besoin de cette forme de confiance-là au début de notre pratique. On a besoin de cette confiance-là, parce que sinon, si on n'avait pas cette confiance, on ne suivrait personne, on ne suivrait pas la voie. Mais cette confiance, elle naît de par notre observation, de par notre analyse, de notre contact avec tel enseignement. On a lu cet enseignement, eh bien, on a le sentiment que ça peut nous servir pour progresser spirituellement. Bon. Mais ça, c'est la confiance, on va dire, une confiance un peu spontanée. Enfin, c'est pas ce qu'on appelle la confiance de la certitude. La confiance de la certitude, c'est une confiance qui naît de l'expérience. Et ça, c'est stable, ça c'est solide, cette confiance de la certitude. C'est-à-dire que lorsque l'on médite et que l'on voit des changements se produire dans notre esprit, ou parce que l'on médite depuis un certain temps et qu'on se rend compte qu'on ne réagit pas de la même façon face à une situation qu'on pouvait réagir avant de pratiquer, par exemple, bon, ben là, on constate, on fait l'expérience qu'il y a une transformation de l'esprit qui s'opère, et je constate, je peux me baser sur, à ce moment-là, le dharma, parce que cette confiance, elle n'est que la pratique du dharma, eh bien, elle transforme quelque chose dans mon mode de fonctionnement. Et cette certitude, c'est la confiance de la certitude, et ça, c'est puissant comme confiance. Et on a besoin de ce type de confiance. Hein. Ensuite, la confiance de l'aspiration, ça c'est une autre forme de confiance qui est nécessaire. La confiance de l'aspiration, c'est la bodhicitta. Il faut avoir confiance dans l'aspiration à réaliser l'éveil. Il faut tendre vers cela. Ça me fait toujours penser à lorsqu'on est entré en retraite, à Nila Rinchen qui nous dit « Pourquoi vous entrez en retraite ?» Et par humilité, on était là pour travailler sur notre ego, pour développer la bodhicitta, etc. Et Nila Rinchen, quand elle a eu fait le tour de tout le monde qui rentre en retraite, nous a dit « Vous êtes tous de l'eau tiède. On entre en retraite pour réaliser l'état de Bouddha. » Voilà. Alors tout de suite on s'est dit, ah donc ça doit être possible dans 3 ans. Manque de peau, personne ne l'a réalisé. Mais ce qui est important, voilà, on a cet objectif-là. Et dans notre pratique, il faut avoir cet objectif. Il ne faut pas se dire, je veux juste m'améliorer, je veux juste être un peu plus sympa avec les autres, quoi. On ne pratique pas une voie spirituelle pour être un peu mieux, quoi. Dans le catholicisme, normalement, on pratique le christianisme pour être un saint. Pas juste pour être personne un peu meilleure, quoi. Et vous avez des saints qui le sont devenus très jeunes. À 24 ans, Thérèse de Lisieux, elle a été déclarée sainte. Mais quand on lui demandait, quand elle était petite, « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»« Je veux être une sainte. » Ben oui, ben elle l'a été. Elle s'est donné les moyens pour l'être. C'est-à-dire qu'il y a une détermination à avoir et qui se base sur cette confiance de la réalisation de l'objectif. Vous pensez bien que si le Bouddha n'avait jamais eu confiance dans cette possibilité de réaliser l'éveil, de comprendre la cause de la souffrance pour tous les êtres, s'il n'avait pas été convaincu qu'il pouvait découvrir cette cause de la souffrance, ne se serait jamais embarqué dans l'ascèse pendant 7 ans, dans, hein, et dans tout ce chemin qui l'a conduit à l'éveil. Et il y a quelque chose, une conviction inébranlable, forte, puissante, qu'on doit avoir dans notre esprit. On ne réalise pas l'éveil en faisant du forcing, je suis bien d'accord. Mais notre inspiration, elle doit être forte, elle doit être puissante. Et puis la troisième forme de confiance, c'est ce qu'on appelle la confiance pure. C'est vis-à-vis des trois joyaux. C'est la confiance vis-à-vis des trois joyaux. Et ça rejoint la confiance précédente. Pour moi, ça rejoint la confiance précédente. Parce que si vous voyez la confiance en le Bouddha comme étant la confiance en votre nature de Bouddha, alors ça, c'est quelque chose qui peut devenir très puissant. Et de là va s'écouler la confiance dans le chemin pour réaliser cette nature de Bouddha et dans les maîtres qui nous montrent le chemin. Le refuge ou la confiance dans le Dharma et dans la Sangha dépend de notre confiance dans le Bouddha, c'est-à-dire dans notre nature de Bouddha. Donc c'est très lié à la confiance précédente, avec la confiance de l'aspiration. Les deux s'entretiennent mutuellement ou se nourrissent mutuellement. Quand il y a découragement dans notre pratique, quand on ne se sent plus très en forme pour pratiquer, etc., il faut retrouver la force de l'aspiration. La confiance de l'aspiration, la confiance et la confiance pure, c'est-à-dire en les trois joyaux. Mais je répète, je crois que je répéterai tout le temps, que cette confiance dans le Bouddha, c'est en nous. Ça veut dire la confiance en nous, en notre nature de Bouddha. On ne va pas le redévelopper, on en a assez parlé, et puis si je commence, je serai encore là sur le même point pendant une demi-heure. Mais ça me paraît tellement fondamental, essentiel, ça. Écoutez, il y a eu un week-end de refuge et bodhicitta, pas le week-end dernier, le week-end précédent. Tout le week-end, on a parlé de ça. Pourquoi se prosterner face à un arbre de refuge? Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi se prosterner face à une visualisation, face à un arbre de refuge. Mais toutes ces pratiques-là, ce sont des moyens qui vont nous permettre de refléter ce que nous sommes. Mais fondamentalement, essentiellement, mais c'est face à nous-mêmes qu'on se prosterne. Pas face à nous-mêmes en tant que petit personnage égotique avec ses petites colères et puis ses petites préférences, etc. C'est face à nous-mêmes en tant que nature de Bouddha, en tant que nature de Bouddha qui a toujours été, qui est et qui sera, et qui est la nature de tout être. L'arbre du refuge, c'est simplement un symbole qui reflète tout ce que nous sommes. Tous les éléments de l'arbre du refuge, vous pouvez les prendre et les appliquer à vous-même en vous disant, c'est ce que je suis. Il n'y a rien dans l'arbre du refuge, il n'y a rien dans une visualisation qui soit à l'extérieur de nous-mêmes, qui représente quelque chose qui existe à l'extérieur de nous-mêmes. Quand vous voyez ça, alors vous faites les prosternations autrement. Vous vous en remettez d'une façon différente à l'arbre du refuge. Parce que vous vous en remettez à votre nature de Bouddha. Et plus vous vous en remettez à votre nature de Bouddha, plus vous sentez de la force, vous sentez de la puissance en vous-même pour faire le chemin. Parce que tous les matins, quand vous vous réveillez, mais vous reprenez conscience que vous avez cette nature de Bouddha, et spontanément, naturellement, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui, quoi? Et alors, il y a la bodhicitta qui s'élève. Vous avez envie de l'offrir, de faire en sorte que ça se développe, que ça devienne ample, et que ça touche tous les êtres. Que tous les êtres qui vont être en contact avec vous aujourd'hui puissent être en contact avec cette nature de sagesse, quoi. La bodhicitta, ça ne peut se développer mais que si l'on prend conscience de cette potentialité qu'il y a en nous. Quoi. Ça, c'est... Ça ne peut pas marcher autrement. Quoi. Et ça, c'est ce que Bhikkhu Rinpoché appelle la confiance pure. Au lieu d'être toujours là, comme beaucoup de personnes qui sont devant une statue du Bouddha à qui ils offrent de l'encens, mais ça c'est, et beaucoup de personnes pratiquent comme ça en Orient aussi. Vous allez dans les pays du Theravada, mais c'est mais il y a toujours cette dualité entre celui qui pratique et puis le Bouddha qui est parfait. Alors parce qu'il est parfait, il va m'accorder la sagesse, il va m'accorder tout ce que je peux, à quoi je peux aspirer, etc. quoi. La pratique du dharma, c'est une voie intérieure. On doit se tourner vers nous-mêmes. C'est ce que veut dire bouddhiste en langue tibétaine. Nampa, ça veut dire en dedans. C'est la voie de l'intériorité. On a tout en dedans de nous-mêmes. Il n'y a dans le bouddhisme rien à rechercher à l'extérieur. Tout ce que l'on trouve à l'extérieur, ça n'est que le reflet de ce que nous sommes. Donc ça peut nous aider, et c'est pas négligeable, mais ça peut nous aider à prendre conscience de ce que nous sommes. Lorsque vous êtes en face de votre lama racine, tout ce que vous pouvez sentir de lui, rayonner de lui, son amour, sa compassion, son attention, sa bienveillance, etc. Tout ce qui peut nous toucher aux larmes, quelquefois. Il ne faut pas rester dans cette relation duelle. Il faut se dire, ce que je ressens chez lui, mais je l'ai. Il est ce que je suis en train de vivre, c'est le reflet de ce que je suis. C'est ce qu'on appelle la réalisation par miroir. Ou par reflet. Il y a ce terme-là qu'on trouve aussi. Donc, ramenez à votre nature de Bouddha tout ce que vous pouvez vivre de façon intense quand vous êtes face à des supports eh bien, qui vous inspirent. Cette inspiration, elle existe en vous parce que vous êtes cela. Alors ensuite, il y a la diligence. Une autre qualité pour notre pratique du Mahamudra, la diligence. Alors, Bhikkhu Rinpoché explique qu'il y a deux aspects de la diligence, intentionnelle et la diligence appliquée. Oui, c'est sûr que...
Il y a aussi l'attaque de la diligence.
Il vient pas souvent, mais quand il vient...
Il est un peu coincé. Oui, il y a aussi l'attaque de la diligence. Mais c'est dans les westerns.
Bien. Alors, la diligence donc intentionnelle, hein, avoir l'intention de reprendre la pratique, etc. Mais on n'en reste pas que à l'intention, il y a la diligence appliquée. Et la diligence appliquée, eh bien c'est, oui, la régularité de notre pratique, mais c'est cet entraînement de l'esprit à être conscient de ce qui se passe dans notre esprit et à lâcher chaque fois qu'il y a quelque chose dont on est conscient et qui se présente à l'esprit. La diligence, ce n'est pas se dire ok, je suis diligent parce que je m'assois une demi-heure tous les jours sur mon coussin. C'est une forme de diligence. Mais la diligence, c'est avoir cette constance, en fait, de l'entraînement, de l'observation de son esprit, et à lâcher, à chaque fois. Et ça, on peut le faire au volant de sa voiture, quand on marche seul, quand on... dans notre activité quotidienne. Hein. Alors, Rinpoché explique que pour nous, la diligence consiste principalement à ne pas céder à la paresse dans notre pratique du dharma, nous consacrer à l'étude, à la méditation, dans la mesure de nos capacités. Alors, la paresse, vous savez qu'il y a deux formes de paresse. Hein. Il y a la paresse orientale, qui est ne rien faire, cette espèce de mollesse du corps et de l'esprit et on reste là comme ça, ne rien faire. On connaît ça aussi, hein, quand on est avachi pendant 3 heures devant la télé à zapper n'importe quoi. Je dis ça parce que dès qu'il y a une télé quelque part, je peux rester 3 heures, même à minuit, 1 heure du matin, à zapper n'importe quoi. Je suis complètement fasciné par l'image. Et alors là, je me dis, oh, je suis paresseux, mais qu'est-ce que c'est bon, mais je suis paresseux, voilà. Ça, c'est... Il ne faut surtout pas qu'on me mette une télé quelque part, parce que je reste scotché, quoi. Ah oui, ça, c'est... Et puis, il y a vraiment la paresse occidentale, qui est la suractivité. Je vous l'ai déjà dit, quel est le mantra qu'on récite le plus souvent en Occident ? Je n'ai pas le temps. Voilà. Ça, c'est vraiment... Et c'est ça. Et vous regardez autour de vous comment les gens vivent. Il faut faire. On fait même le Mexique. Hein. C'est le verbe faire qu'on conjugue le plus. Il faut toujours faire quelque chose. Bon. Et ça, c'est une forme de paresse dans le sens où on n'a pas le temps à ce moment-là d'observer, simplement de se poser et d'observer notre esprit. Ce qu'il y a de terrible dans cette paresse, c'est qu'elle est dirigée, enfin elle est vue presque comme une qualité, quoi. Hein. Sinon on nous traite de paresseux si on ne fait pas. Hein.
C'est aussi souvent le reflet d'une angoisse aussi, les gens.
Oui, tout à fait. Voilà, un autre élément nécessaire pour notre pratique, c'est l'intelligence. C'est-à-dire notre discernement, notre capacité à discerner, à réfléchir, à étudier, à analyser, etc. C'est important aussi pour notre pratique. Rinpoche explique qu'on a beaucoup d'intelligence en général pour la réalisation d'une activité mondaine. Elle peut être très aiguisée. Hein. Alors, ça veut dire qu'on peut l'avoir aussi pour notre pratique du Dharma. Et dans la pratique du Dharma, il y a une forme d'intelligence qui est vraiment utile, c'est le discernement. Vraiment le discernement. On a tellement vu de personnes qui perdent tout discernement à partir du moment où elles suivent une voie spirituelle. Mais vraiment, en devenir stupide, quoi. Et ça se voit, quoi. C'est-à-dire, le lama a dit, vous savez, c'est le lama l'a dit. La maladie.
Hein. Mieux fait de cracher.
Alors, il l'a dit, donc je fais. Même si je n'ai pas vraiment compris, même si je trouve ça complètement ridicule, mais le lama l'a dit. Alors, c'est ma dévotion. C'est de la stupidité, cette façon de vivre son dharma. Je racontais l'histoire du tambour déjà. Hein. Il y a un jour un Vajradhara, un Malyurmé qui part et puis qui dit à une personne, alors dès qu'il disait quelque chose à cette personne, la personne dit oui, la main. Avant qu'il explique hein, vraiment ce qu'il voulait. Alors il avait acheté un tambour avec un porte-tambour en bois et il dit en partant, vous me peignez le tambour en verre. Évidemment que c'était le montant en bois, quoi. Ah ben non, il avait dit le tambour. Je ne vous dis pas la tête de la Magyurmé quand il est rentré le soir et qu'il a vu la peau du tambour peint en vert. C'est pas vert qu'il a vu, c'était rouge, quoi. Ah oui. Mais voilà, il y a plein d'histoires comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parce qu'on suit le dharma, on devient stupide, bête, et on n'a plus la faculté de réfléchir. Bon. Enfin, la dernière condition pour ce type de pratique, c'est avoir un maître. Et donc l'ensemble doit nous permettre de rencontrer un bon maître et de recevoir de lui la sève des instructions, c'est-à-dire les instructions directes données oralement. Puis d'en avoir une pratique correcte sans rencontrer d'obstacles. Voilà. Alors, c'est intéressant de replacer la relation avec le maître. Vous avez beaucoup de personnes qui peuvent avoir beaucoup de respect, de dévotion vis-à-vis de tel Rinpoche, qu'ils peuvent même considérer comme étant leur lama racine, mais qui ne mettent pas en application les instructions du maître. La dévotion, vous savez, ce n'est pas, ça ne consiste pas à faire des courbettes ou à faire des sourires, être là comme ça sur une photo, avec le lama racine. Ce n'est pas ça la dévotion. La dévotion, c'est la confiance que l'on attribue à ce maître-là, mais cette confiance, elle se traduit par la dévotion, c'est-à-dire par la mise en application des instructions qu'il nous donne. Et évidemment qu'on ne peut appliquer ces instructions que si nous avons confiance. Ça, d'accord. Mais la dévotion, c'est ça. Ce n'est pas... On dit qu'il y a plusieurs formes de dévotion. Ça peut être servir le maître, etc. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre maître spirituel, c'est votre pratique. C'est votre pratique. Tout le reste, il n'en a pas fondamentalement besoin. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour que nous avancions sur la voie du Dharma. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez faire. Le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, c'est d'aller le voir et lui dire « J'ai avancé dans ma pratique. Je me suis efforcé de pratiquer régulièrement. Voilà ce que je note comme transformation dans mon esprit, comme compréhension du fonctionnement de mon esprit. Est-ce que c'est juste ? Si c'est juste, comment aller plus loin ? Donc donnez-moi des instructions et j'irai plus loin avec. Si ce n'est pas juste, où sont les défauts ? Quels sont les antidotes pour dépasser ces défauts ? Il n'y a que ça à demander à notre maître. Notre maître n'est pas un conseiller conjugal, surtout s'il est moine depuis tout petit. D'accord ? C'est pas ce qui se passe dans un couple, c'est pas comment ça se passe. Et ce n'est pas un psy non plus. Il ne peut pas répondre, il peut nous réconforter, il peut comprendre notre peine, nous réconforter là-dedans, d'accord. Mais il ne peut pas nous donner une solution à ces problèmes que nous vivons. Il n'a pas été formé pour, quoi. Par contre, il est formé dans la transformation de l'esprit. Et si nous suivons le Dharma, c'est pour transformer notre esprit. Le but du Dharma, c'est ça, quoi. Donc la relation avec le maître, ça doit s'établir d'abord sur ça, sur notre pratique. Ça, c'est vraiment important, hein. Quand... les Rinpoché, quand ils viennent nous voir, c'est pas pour visiter un musée ou un jardin ou pour manger de la choucroute parce qu'ils sont en Alsace ou pour manger autre chose parce qu'ils sont ailleurs. Ça leur fait plaisir, mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour la pratique de leurs disciples. Donc ça, il faut vraiment se le rappeler. Et profiter qu'il y a notre maître, tel Rinpoche par exemple, qui vient, et bien quand il est là, il faut lui poser les bonnes questions. Il faut lui poser les bonnes questions sur notre pratique, sur le fonctionnement de notre esprit. Parce qu'il y a des tas de questions qu'on lui pose, qu'on peut poser à n'importe quel autre lama par exemple, c'est-à-dire à un ami spirituel. Mais à un Rinpoche qui a réalisé la nature de l'esprit, il faut poser ses questions là-dessus. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut lui poser ces questions-là. Mais ça fait référence à tout ce que nous avons vu avant. Quelle est l'intensité de notre aspiration pour la pratique ? Quelle est la détermination que l'on prend pour pratiquer, etc. Ces éléments-là, ça forme la base de notre pratique. Et on en a besoin si nous ne cultivons pas ces éléments, ces différents points qu'on vient de voir, notre pratique sera molle, ça manquera de force, de puissance. Or, un bodhisattva, c'est pas quelqu'un qui peut envisager sa pratique de bodhisattva comme étant juste apporter le panier d'une personne âgée, quoi, je veux dire. Il faut que ça aille plus loin que ça. Il faut que ça aille jusqu'à l'ultime. L'ultime, c'est le déracinement du fonctionnement égotique de l'esprit. Parce que c'est ça la cause de la souffrance. Et si vous n'êtes pas sûr que c'est ça la cause de la souffrance, méditez. Faites naître. Saisissez tout ce qui se passe dans l'esprit et voyez au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure dans quel état se trouve votre esprit quand vous avez saisi tout ce qui s'élève dans l'esprit. Nous devons appuyer notre pratique sur notre expérience. Le Dalai Lama utilise beaucoup le terme compréhension. Nous devons comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas une compréhension d'un texte que nous avons lu, qui nous a inspiré, c'est une compréhension en termes d'expérience de ce qui se passe dans notre esprit. Je comprends ce qui se passe dans mon esprit parce que je l'expérimente, parce que je le vis. Si on nous dit que la saisie égotique, c'est la racine de la souffrance, il faut absolument être sûr de ça. Absolument être sûr. Et plus nous en serons certains, alors plus notre pratique va se focaliser sur cette saisie égotique. Et alors après, ça va très vite. On s'arrête là pour aujourd'hui parce qu'après, il y a un morceau, il y a celui-là. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'on peut régresser dans notre...
Alors, on peut régresser parce qu'il y a toujours les tendances. Tant qu'on n'a pas réalisé l'éveil, il y a des voiles qui restent à purifier, et notamment le voile des tendances. Le voile des tendances, c'est les habitudes de fonctionnement. Et Kalo Rinpoche, par exemple, disait... Quand on a des expériences, on voit qu'il se produit une transformation de l'esprit. Il disait surtout, n'arrêtez pas de méditer. Continuez. Parce que si l'on s'arrête à ce moment-là, alors il y a les vieilles habitudes bien qui reprennent force. Et ça peut déstabiliser l'expérience qui a pu se mettre en place dans l'esprit. Donc, oui, il peut y avoir, on va dire, régression, quoi. Ouais. C'est un peu comme si vous apprenez à jouer du piano, vous arrivez à faire un morceau. Ah, bah alors, parce que ça y est, maintenant, ça, je sais jouer ce morceau, donc je ne m'entraîne plus pendant un mois, et ben, le mois d'après, vous voyez que faut reprendre de l'entraînement, quoi. Donc en fait, voilà, il faut avancer tranquillement, mais tranquillement, mais avec détermination. Et jusqu'au bout. Alors maintenant, parce que bon, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais il peut y avoir un sentiment de régression qui n'en est pas forcément une. Et ça, c'est, alors souvent, les personnes qui commencent à méditer, par exemple, qui, au bout de 6 mois, 1 an, constatent qu'elles sont plus agitées, que leur esprit est plus agité que lorsqu'elles ne méditaient pas. Et il y a beaucoup de personnes qui cessent de méditer à ce moment-là. Or, il faut savoir que ce qui se passe là, c'est les premiers signes du calme mental. C'est paradoxal que ça paraisse. Parce que, en fait, il y a moins de pensées, il y a moins d'agitation, mais il y a un développement de la conscience, de la clarté de la conscience. Donc, il y a moins d'agitation, mais une conscience plus vive par rapport à tout ce qui apparaît. Donc, même s'il y en a moins, il y a une impression qu'il y a davantage de mouvements et de perturbations. Mais ce n'est qu'une impression. Donc ça, quand ça se produit, il faut vraiment en parler. Parce qu'il faut savoir que, et en fait, non, tout va bien. C'est normal. Voilà.
Moi, l'expérience que je parlais était plus un peu par rapport à la compassion. Mm-hmm. J'ai l'impression d'avoir moins de compassion.
Est-ce qu'il y a moins de compassion ou est-ce qu'elle s'exprime d'une autre façon? Est-ce que vous la vivez peut-être d'une autre façon? Je ne sais pas. Parce que normalement, dans notre pratique, on est plus touché par la souffrance d'autrui. On est plus, donc il y a déjà la bodhicitta en aspiration qui quand même se développe. Après, on n'a pas forcément les moyens pour répondre au développement de cette bodhicitta en aspiration. Donc on ne sait pas comment faire et on ne trouve pas les moyens pour répondre à cette bodhicitta. Donc on se rend pas compte qu'on a plus de bodhicitta en aspiration. Mais comme il y en a plus et qu'on n'a pas forcément les moyens pour répondre à cette bodhicitta, on peut avoir l'impression alors de moins pratiquer la compassion, de moins la ressentir, de moins la... Mais normalement, la compassion, non, elle se développe. Mais il y a peut-être d'autres formes de compassion. Il y a peut-être une forme de compassion qui se développe avec plus de sagesse et moins de sensibilité. C'est pas, ça, c'est pas impossible. Hein.
Compassion détachée, un petit peu.
Oui, on peut dire ça. On peut voir, on peut utiliser ce terme. Une compassion, oui, plus détachée. On est moins dans la situation, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il y a une compassion avec indifférence, hein, mais il y a une compassion avec plus de recul, plus d'analyse, de discernement, peut-être.
À la limite, là-bas, ce serait bien pour venir à ce stade de compassion quand on est vraiment né dans le guidon et qu'on ne voit plus que le problème en permanence. Justement, comment s'en échapper un peu, c'est ça?
Il faut voir que nous ne sommes pas uniques.
C'est la question.
Il faut voir que nous ne sommes pas uniques et que oui, on a des problèmes, on peut avoir de gros problèmes, mais...
Qui envahissent, qui...
C'est vrai qu'à part faire une autre saisie, j'ai du mal.
De faire ?
D'appliquer une saisie sur autre chose, pour essayer de prendre du recul sur...
Oui, mais en même temps, quand vous êtes en plein dans une saisie par rapport à ce qui vous arrive, est-ce que ça vous soulage, cette façon de faire
d'être
complètement dans votre truc de ce qui vous arrive.
Non, justement, c'est bien ça qui est grave, dont je veux m'échapper. Justement, mais la méditation, à ce moment-là, et le coussin... ne m'apporte pas de calme, au contraire.
Mais il y a...
Est-ce qu'il faut prendre Aïdam? Est-ce qu'il faut prendre...
Oh non, tout ça c'est...
Ben voilà, justement.
Tout ça c'est...
Il n'y a pas un moyen habile qui...
Non, non, parce que ça, là on est complètement alors dans la recherche d'un oui, miracle.
Voilà,
on invoque Tara pour trouver une place de parking. C'est exactement le même processus. J'invoque Tel Aïdam pour que ma saisie disparaisse. Non, quand on est dans une situation où notre saisie, où notre esprit saisit complètement la situation, à mon avis, on ne peut que constater que j'ai encore vraiment besoin de méditer, quoi. C'est-à-dire que dans cette situation-là, si je la saisis bien, il n'y a pas à porter un jugement sur moi-même sur le fait de saisir cette situation-là. Voilà. Mais c'est de constater que cette situation est tellement intense que mon esprit ne peut pas ne pas la saisir. C'est ce qu'avait répondu un jour l'ancien Kalo Rinpoche à une personne qui était complètement dans un facteur perturbateur. Et Rinpoche avait éclaté de rire. Il avait dit, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Vous parlez d'une saisie par rapport à une situation, mais il y a autant de saisies quand on est, par exemple, en plein dans la colère ou en plein dans un autre facteur perturbateur. Il n'y a pas... On ne peut pas invoquer qui que ce soit qui, par une baguette magique, transforme cette saisie en non-saisie par rapport à ce facteur perturbateur ou à cette saisie.
La pratique du idam avec le... Si vous voulez, rien que de décliner les différentes parties du corps, est-ce que ça appelle justement pour essayer de détourner un petit peu l'esprit?
Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est un support de ouais, ça, c'est un support de méditation. Vous pouvez prendre un yidam, vous pouvez prendre n'importe quoi pour, à ce moment-là, distraire presque l'esprit, de le détacher par rapport à la saisie qu'il est en train de
d'opérer. Une vision ou un film ou tout ça.
C'est ce que je disais.
Alors d'accord. Mais il ne faut pas voir, comme beaucoup de personnes voient, que parce que j'invoque tel guidame, alors la saisie va complètement se dissiper dans l'esprit, quoi. Et ça doit nous rappeler que, en fait, si cette situation-là, je la saisis bien, bon, bah, je peux trouver des remèdes palliatifs pour diverger cette saisie, hein, d'accord. Mais ça doit me ramener au fait que je dois vraiment m'appliquer à travailler sur l'esprit quand tout va bien. Parce que la pratique, il faut vraiment voir la pratique comme étant le résultat d'un entraînement. Et si là je manque d'entraînement, ça me rappelle qu'il faut que je m'entraîne. Et que je m'entraîne dans des situations où je peux vraiment m'entraîner. Il ne faut pas attendre d'être dans une situation extrêmement puissante où là je ne pourrai pas entraîner mon esprit. Parce que ça sera tellement puissant que ça va m'envahir, quoi. Après, bon, là, je suis d'accord. Vous pouvez diverger la saisie, la dérouter sur autre chose. Oui, ça, d'accord. Oui, ça... Ouais.
Merci.
Et puis, à ce moment-là, vous pouvez penser à tous les êtres qui souffrent.
Oui, exactement.
En disant, bon, là...
pratiquer pour tous les êtres, tout à fait.
En disant, ce que je suis en train de vivre, que ce soit utile aux êtres. Et ça, c'est une forme de tonglen, ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tel Rinpoche, il meurt de façon complètement paisible, consciente, il s'installe, voilà, c'est le moment, j'y vais, pas de problème, et il meurt comme ça. Et beaucoup de personnes disent, oui, mais c'est un Rinpoche. C'est pas parce que c'est un Rinpoche qu'il meurt comme ça, c'est parce que c'est un pratiquant. C'est parce qu'il a entraîné son esprit. On en parlait tout à l'heure, l'oncle de Rinpoche est mort. Vous l'aviez connu peut-être à un séminaire d'été, premier séminaire à...
L'inauguration de Luz, non?
À Berenthal.
Premier séminaire à Berenthal, il était là, il avait 88 ans.
Il pratiquait tout le temps.
Et il pratiquait tout le temps. Bon, il est mort en tout d'âme, comme un Rinpoche.
Ah oui?
Et il n'était pas Rinpoche, il avait vécu avec famille, voilà. Mais il avait travaillé sur son esprit. Toute sa vie. Donc pour pouvoir mourir de cette façon-là, ouais, s'il arrive à mourir de cette façon-là, c'est le résultat de toute une vie d'entraînement de l'esprit. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de miracle qui se passe au moment de la mort, parce que il y avait son neveu qui était là, et qui est Ringu Rinpoche. Là, il ne faut pas compter là-dessus. Hein.
D'ailleurs, il engueulait parce qu'il disait qu'il ne pratiquait pas.
Oui, l'oncle engueulait souvent le Rinpoche en lui disant « Ouais, tu ne pratiques pas. » Il en parlait avec beaucoup d'admiration, Rinpoche à Berlin, de son oncle. Alors après, lors de la crémation, la fumée s'est dirigée complètement à l'ouest. Personne n'a dit qu'il y avait un petit vent qui poussait, mais le fait que la fumée aille à l'ouest, pour tout le monde, c'est clair qu'il pouvait reprendre naissance par là, quoi. Et puis, ils ont trouvé... Voilà. Et puis, ils ont trouvé dans les cendres de... une forme de pas qui allait direction de l'ouest, nous a dit Rinpoche. Mais en tout cas, ce qui impressionnait, c'est pas ce qui impressionnait, mais il en parlait avec aussi une certaine impression quand même, Rinpoche, c'était vraiment les derniers instants de l'oncle, quoi. Il ne voulait jamais que Rinpoche... le soigne, il lui fasse sa toilette, etc. Et il y a juste avant de mourir, où il a demandé que ce soit Rinpoche qui l'emmène aux toilettes et qu'il l'installe. Et il s'est installé, et de façon très paisible, il continuait de réciter son mantra, et de façon très paisible, il est parti, et Rinpoche dit avec un sourire sur les lèvres. Mais voilà, c'était quelqu'un qui avait pratiqué.
Je ne sais pas si quelqu'un a regardé la sagesse bouddhiste de Montfermeil. C'était Teilhard Rinpoche, justement, c'était sa mort.
Ah, et il y avait la photo de son Tugdam.
C'est impressionnant, là.
Oui, hein.
Comme ça. Voilà. Dimanche dernier.
Ah, c'était dimanche dernier.
Oui, j'ai raté. Moi, je l'enregistre toujours parce que c'est trop tôt le matin.
Voilà, moi, je le prends en direct.
C'est impressionnant de voir des gens arriver à ce stade-là.
Oui, il avait des doigts coupés, il avait une jambe coupée, il avait les yeux qui n'en étaient plus. On allait lui couper la deuxième jambe. Tout ça à cause d'un diabète très, très puissant, quoi. Et il disait, quand on lui posait la question, ça a beaucoup impressionné Rinpoche aussi. Quand on lui posait la question, paraît-il... comment était sa vie, etc. Il a dit, je n'ai jamais eu d'obstacle. Mais ce n'est pas un miracle, ça. Hein? C'est pas miraculeux. C'est, voilà, des êtres qui ont pratiqué et qui ont pratiqué avec eh bien, cette observation de la transformation de leur esprit. Voilà.
Et d'ailleurs, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas beaucoup d'importance, mais quand on se prosterne devant soi... On se prosterne devant soi ou devant ce qu'on peut être, sa potentialité ?
Devant ce que vous êtes. Devant ce que vous êtes.
Parce que t'es déjà là, t'es...
Voilà.
Oui, mais c'est caché.
Mais pas si caché que ça. Pas si caché que ça. À longueur de journée, vous exprimez votre nature de Bouddha. Olivier, à longueur de journée, vous exprimez votre nature de Bouddha.
Non, par contre.
Ah, mais c'est ça l'ignorance, mais... Il faut la regarder, il faut prendre conscience de ce qu'est cette nature de Bouddha. Il n'y a pas que des manifestations égotiques dans ce que tu fais toute la journée. Il y a de l'amour de temps en temps, non ?
Sûrement, mais c'est difficile de discerner l'ego de ce qui n'est pas.
Mais l'ego, il n'y en a même pas d'ego, il faut le laisser tomber, il ne faut surtout pas s'occuper de l'ego. Il faut s'occuper de toutes les qualités qui sont présentes en toi. Dès que tu as un sentiment d'amour, dès que tu as un sentiment de compassion, dès que tu as envie de faire quelque chose pour autrui, avec une motivation claire, mais c'est ça ta nature de Bouddha. Bien sûr qu'il y a des voiles dues à l'ignorance, et cette ignorance, c'est ce qu'on appelle l'ego. Mais attention, l'ego, il n'y en a pas d'ego, il n'y en a jamais eu. Donc c'est pas ça qu'il faut détruire, c'est pas l'ego qu'il faut détruire. C'est la croyance en l'existence d'une telle bestiole. Mais c'est juste une croyance qu'il faut détruire, c'est pas quelque chose. Comment, Jacqueline?
Vous partez en Inde alors, maman, bientôt?
La semaine prochaine, oui.
On vous donnera le courrier alors.
Vous l'avez là? Oui, vous l'avez là. Ah non.
Vous donnerez
courrier.
Vous arrivez quand? Quel jour?
Il est trop tard.
Personne ne vous l'a rendu.
Mais non, mais.
Dans deux jours?
Oui.
Ah bon, alors ça va. Parce que je m'en vais le jeudi, parce qu'il y a enseignement à Strasbourg jeudi soir. Donc on dort à l'hôtel parce que l'avion est à 6h45 le matin. Voilà. Donc je penserai à vous, Stupa, de Bodh Gaya. Et puis là, c'est bien parce qu'il y a... Ça va être calme, Bodh Gaya va être déjà un peu désert. Donc,
quel temps il fait là-bas?
Il fait bon. Il fait bon, c'est 20-22 degrés la journée. C'est déjà bien. Oui, évidemment que...
C'est mieux que dans les Vosges.
C'est mieux que dans les Vosges, oui, ça c'est sûr. Hier, en 3 heures, il est tombé 25 cm de neige. Hein. Hier matin, ouais. Vraiment, ça avait tout fondu juste avant. Et en 3 heures... 25 cm.
Vous arrivez à monter le chemin?
Oui, mais il y a le chasse-neige qui passe 3 fois
oui,
par jour.
Oui, c'est ça.
Donc c'est... Non, c'est pratique, c'est bien. Non. Mais vous savez, bon, on a l'habitude, hein. On a 4 pneus neige, et puis à chaque voiture, puis voilà, de toute façon, il faut bien adapter notre mode de vie aux conditions, et voilà. On voit, hein, les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude. Ça, c'est... Mais c'est clair, quoi. Il y a ça de neige, on laisse les voitures en bas près du pavillon des chasseurs en disant oh bah ça me fera ça, comme ça je peux prendre l'air, oui. Et tout de suite on nous dit oh là, mais comment vous êtes descendu, est-ce que vous pouvez remonter,
bah, oui, vous
c'est bien,
hein.
Comment
est-ce que vous survivez la nuit?
Oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui nous demandent si on survit, si on mange.
Oui,
il y a les corbeaux qui viennent nous ravitailler.
Vous allez chercher le courrier dans la boîte à lettres?
Oui, pas tous les jours.
Peut-être
pas tous les jours, non. Peut-être pas
tous les jours.
Ouais. Voilà. Mais non, non, tout va bien. Ça se passe bien. Voilà, on va faire la dédicace.
Oh, Egewadi, Nyotuda, Chagya, Tenpo.